France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2025. Le 1er janvier, le jour des vœux de bonheur, de santé, de prospérité, le jour des bonnes résolutions, devenir une meilleure version de soi-même, pour parler comme un mauvais manuel de développement personnel. Et si on profitait de ce début d'année pour se plonger dans quelques livres de développement personnel, de psychologie et de philosophie de qualité. L'idée, c'est de ne pas chercher la recette magique du bonheur, comme nous le rappelle ce bon vieux Camus, tu ne seras jamais heureux si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur, tu ne vivras jamais si tu cherches toujours un sens à la vie. Nos invités nous conseillent quelques livres qui contribueront à bien débuter une année qui s'annonce assez surprenante. Un choix éclectique qui ira de Camus à Sénèque, de Saint-Augustin à François Tchang, de Christian Bobin à Elisabeth Gilbert, de Matt Haig à Blaise Pascal, en passant par Hélène Leuillet. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Donc vous avez passé le réveillon chez vos parents?
Oui. Et vous?
Ah non, je suis allée à une fête hier soir à Londres et aujourd'hui j'ai un peu la gueule de bois. Je rêve de me planquer au petit coin, la tête dans la cuvette comme tout individu normal. Résolution du nouvel an, moins boire. Oh, arrêtez de fumer. arrêtez de parler à tort et à travers à des inconnus. En fait, arrêtez de parler tout court, point barre.
Vous devriez peut-être aller manger quelque chose.
Extrait du journal de Bridget Jones en 2001, résolution de se plonger ce matin dans quelques bons livres de philo, de psycho ou de développement personnel pour bien commencer cette année 2025. Bonjour Cédric Angelbert.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint du mensuel Le Philosophie Magazine. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes agrégé de philosophie normalienne. Vous avez notamment publié Ce que la philosophie doit aux femmes avec Laurence Hansenlove. Bonjour Flavia Mazzolin-Salvi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et l'autrice au courrier du livre du petit livre des grands réconforts. Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne humoriste, mais également titulaire d'un DESS en psychologie clinique.
Option psychanalyse.
Et votre spectacle Que faire des cons se joue tous les mardis à 21h15 au Point Virgule à Paris. Et bonjour Christine Appelé-Douel.
Et bonjour Ali.
Journaliste indépendante. Et vous avez notamment publié ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Alors Sandra Colombo, dans votre spectacle, il est beaucoup question de développement personnel.
Oui.
Les livres de développement personnel, ce sont des livres qui promettent de changer nos vies, de se réaliser, de s'améliorer, de vivre plus heureux, de renouer avec soi, soi et les autres. Et dans votre spectacle, votre personnage teste plusieurs livres. Hein.
Ah oui.
Elle teste les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, La magie du rangement de Marie Kondo, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, Le pouvoir du moment présent des cartes Tolle et Le Miracle Morning d'Al Elrold. Et avec ça, elle n'est pas très heureuse.
Non, elle
y arrive ou pas,
pas aussi heureuse. Non, toujours pas. Ça ne marche pas. C'est comme les régimes. Voilà, moi, je les ai tous faits. J'ai lu quasiment tous les bouquins de développement personnel et total. Et ben voilà.
Et vous avez réellement testé toutes ces méthodes avec, j'imagine, des résultats divers et variés?
Malheureusement, je suis obligée de répondre oui à cette question. Ouais. Oui, tout à fait. Je les ai tous testés parce que je crois qu'on est tous à la recherche de quelque chose d'un peu magique. Hein. On est comme des enfants quand on traverse les passages piétons. On se dit, si je marche que sur le blanc, je vais avoir 20 à mon contrôle, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et ben, je pense que c'est un peu ça.
Ça s'appelle la pensée magique.
La pensée magique, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a poussé justement sur ce type d'ouvrage de développement personnel?
Eh bien, c'est parce qu'on est toujours... Enfin, moi, j'étais toujours à la recherche de comment aller mieux, comment être la meilleure version de moi-même. Et j'ai fait beaucoup de thérapie, que je continue d'ailleurs encore, mais à un moment, on se dit, visiblement, ça doit marcher autrement. Puisque, en plus, ces livres sont quand même les livres les plus vendus en France. Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais essayer ça. Parce qu'à force, peut-être, je suis trop intelligente, je veux trop me prendre la tête, je fais de la psychanalyse. Essayons quelque chose de plus basique, les quatre accords Toltec. Voilà, et je les ai lus.
Alors, le philosophe Michel Lacroix, à propos des adeptes du développement personnel, eh bien, il nous explique que ces adeptes aspirent à une vie plus intense. Ils recherchent non seulement le mieux-être, mais le plus-être. Ils ont soif de plénitude et désirent ardemment cultiver leur âme. Vous reconnaissez dans ce portrait robot du lecteur, de la lectrice de développement personnel ?
Je crois que c'est pour ça qu'on en lit, pour essayer d'être mieux avec soi, mieux avec les autres. On essaye d'améliorer sa vie et celle de l'autre. Et je pense que ces ouvrages-là, ils nous donnent justement des clés. Enfin, ils font semblant de nous donner des clés. Parce qu'en vrai, c'est pas si facile que ça.
Christine Appelé-Douelle.
Oui, le problème avec tous ces livres de développement personnel que tu as lus, et moi aussi, c'est que, en fait, ce sont des propositions de recettes magiques. Or, on sait bien que les recettes magiques, ça ne fonctionne pas. Même si, parfois, à certains moments, ça peut quand même faire du bien. C'est comme d'acheter des produits de beauté. On se dit, on va être beaucoup plus belle après. Non, mais en revanche, ceux à qui ça fait vraiment beaucoup de bien, ce sont les auteurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais tout n'est pas à jeter non
bien
plus.
Sûr.
Tout n'est pas à jeter.
Exactement.
Alors, Flavia Mazzolin-Salvi, la promesse de tous ces livres de développement personnel, eh bien, c'est de nous aider à renouer avec qui nous sommes, de réaliser notre potentiel. C'est une promesse assez vertigineuse, hein ?
C'est aussi... Dans tous ces livres, il y a vraiment au moins deux catégories de livres. Il y a les livres qui sont, du développement personnel, mais de manière mécanique, qui effectivement proposent des recettes qui sont absolument inopérantes, voire des niaiseries, des fadaises. Et il y a aussi ce qu'on peut regrouper sous ce terme, tout un courant, actif de la psychologie. On en parlera tout à l'heure, par exemple Adler, qui est considéré, Alfred Adler, comme l'un des pères du développement personnel, mais aussi Abraham Maslow, etc. Donc il y a le développement personnel qui nourrit l'esprit, c'est-à-dire qui nous rend acteurs en nous donnant des outils de compréhension qui parlent à notre intelligence, à notre singularité, alors par effet de résonance, mais qui proposent des outils qui tiennent la route, je dirais. Et puis il y a les contes de fées pour adultes, effectivement, comme disait Sandra Colombo, il y a un moment, ça fait du bien, on est attiré parce que c'est sucré, parce que c'est coloré, parce que ça brille. Ça peut pas faire de mal, quoique, mais enfin, ça fait pas de bien non plus.
Qu'est-ce qui distingue, Christine Appelé-Douelle, un bon livre de développement personnel d'un livre médiocre ?
Un livre médiocre, c'est exactement ce que vient de souligner Flavia. C'est un livre de recettes, quoi, dans lequel on ne se reconnaît pas. Il faut appliquer des manières de faire ou des manières de penser, évidemment ça ne fonctionne pas, voilà. Mais un bon livre de développement personnel, c'est peut-être celui qui a des références, d'abord, sérieuses, solides, et qui permet d'ouvrir une porte à la réflexion. Voilà. Et évidemment, une des vertus de ce type de livre, c'est aussi d'être plus facilement lu et abordable que la philo, par exemple, ou la psychanalyse pure et dure, c'est plus simple. Mais ça n'empêche pas d'ouvrir des portes et de pouvoir se diriger vers ce qu'on peut appeler la vraie, avec une majuscule, la vraie littérature qui permet en effet de réfléchir.
Laurence de Villers, peut-on dire qu'à leur manière, certains philosophes de l'Antiquité gréco-romaine ont écrit des sortes de manuels de développement personnel ?
Alors, oui, et plus que ça, et non.
Je pense évidemment au manuel d'Épictète ou aux lettres à Lucilius de Sénèque. Hein.
Ou même Épicure, leurs adversaires, les épicuriens. Oui, parce que la philosophie et le philosophe prend la parole parce qu'il considère que vivre ne va pas de soi. Et que c'est sans doute la chose la plus difficile, et parce que c'est une épreuve, et ça sera repris par une littérature chrétienne, par exemple, de dire que la vie est une épreuve, parce que la vie est une épreuve et qu'on ne comprend pas tout de ce qu'on vit. Donc oui, dans ce sens-là, les philosophes proposent de nous aider à vivre. Et ça, c'est un premier point. Et puis, moi j'irai plus loin, c'est pas seulement les philosophes de l'Antiquité. Je crois que tout philosophe nous dit que vivre ne va pas de soi et qu'il faut d'une certaine façon nous guérir de la vie ou du mauvais chemin qu'on aurait pris dans la vie. Pascal, Nietzsche, Sartre même, qui nous dit qu'on brade notre liberté, essaie de nous guérir d'une mauvaise liberté. Et puis non, juste sur un point, mais on y reviendra, c'est que pour les philosophies anciennes, notamment, l'idée n'est pas du tout de développer le soi. Il n'y a pas de soi. Le soi n'est pas le centre de la vie, c'est pas intéressant. C'est même pas un concept pour certains de ces philosophes. Ça n'existe pas encore. Donc, l'idée de se développer, de s'accomplir, de se réaliser, leur est totalement étrangère.
Cédric Anjalbert.
Oui, effectivement, pour compléter ce que disait à l'instant Laurence de Villers, c'est vrai que dans la philosophie antique notamment, il y a des exercices spirituels, il y a une forme de boîte à outils qui nous permet de progresser dans l'existence, mais il ne faut pas oublier que cette boîte à outils n'est jamais déconnectée d'une politique, d'une biologie, de tout un ensemble de réflexions sur le monde. Donc la partie éthique de ces philosophies n'est qu'une partie. Il faut bien considérer l'ensemble. Et par ailleurs, effectivement, ce sont des philosophies qui sont donc politiques, donc ancrées dans le monde, jamais dans un retour sur soi ou dans une forme d'égocentrisme. Par ailleurs, ce sont des philosophies qui ont pour but souvent la vertu plus que le bonheur. Et puis enfin, ce sont, on le disait tout à l'heure, pas des recettes miracles, mais plutôt des dispositions qui nous permettent de prendre problème, comme le disait Laurence Duveller, prendre conscience du problème de la vie que nous vivons, de l'existence telle que nous la vivons.
Et juste une chose, pour un de ces philosophes de l'Antiquité, Sextus Empiricus, bon c'est un nom curieux, je vous le concède, mais Sextus Empiricus disait « il n'y a pas de recette du bonheur, il n'y a pas de recette de la vie, il n'y a pas d'art de vivre », c'est-à-dire au sens où il y aurait une méthode et une technique et qui nous dirait comment vivre ou comment être heureux. Ça n'existe pas.
Bonjour Gwenaël Boulet.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'Api. Bonne année à vous Gwenaël.
Merci, bonne année.
Quel est le menu de votre chronique « Ma vie de parent » ?
Bien moi, je vais essayer de voir en quoi la parentalité est un terrain idéal pour travailler son développement personnel.
Ça
le
promet.
Tout, voilà, sur un retour, un soir de fête de nouvel an quoi.
Ça promet.
France Inter.
Je constate qu'hélas, il n'existe pas de méthode qui apprenne à rater sa vie.
Grand bien vous fasse.
Heureusement, des experts internationaux lousériens conseillent un manuel de sous-développement personnel.
Ali Rebbi.
Et en ce 1er janvier 2025, une petite sélection de livres de développement personnel, de psychologie et de philosophie pour bien commencer l'année. Écoutons l'autrice britannique Marianne Powers, qui avait testé dans son livre diverses méthodes de développement personnel. C'était dans Grand Main vous fasse en 2018.
A bad office job that I hated.
J'avais un emploi de bureau qui me déplaisait profondément.
Complaining about my life with a
friend. Je détestais, je me plaignais de cette vie auprès d'une copine.
She gave me this book.
Et elle m'a donné ce livre.
And I was very cynical. I rolled my eyes. I had just studied literature at university,
et moi,
and I thought I was better
cynique,
than self-help.
Vous savez, j'avais étudié la littérature à l'université. Je me suis dit, mais je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ces manuels de développement personnel. Ça m'amuse mal à l'aise.
But then I went home and I read it and I loved it.
Mais après, bon, je l'ai ramené chez moi, je l'ai lu. Et j'ai adoré.
The Power of Now by Eckhart Tolle.
C'est le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Ça, j'ai adoré ce livre.
Because I really thought at the beginning that there was something wrong with me.
Parce que je croyais sincèrement au début que quelque chose n'allait pas chez
moi. And that I just needed to try harder and fix myself.
Et que je devais faire plus d'efforts, essayer davantage et me réformer.
I learned probably I didn't need to improve myself or fix myself. I needed to accept myself.
Mais j'ai appris que je devais m'assumer, que je devais m'accepter comme j'étais plutôt que de chercher à tout prix à me réformer.
L'autrice Marianne Powers dans Grand Main vous fasse en 2018. Alors, dans quelle mesure un livre de développement personnel, de philo, de psycho, peut nous transformer en profondeur et à quelles conditions, Laurence de Villers, j'appelle que vous êtes philosophe.
Alors, moi, c'est un livre de développement personnel, et j'avoue que j'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai lu. Et il y en a un qui m'a plu, ça va vous surprendre. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait la base d'une réflexion. C'est Mincen Eliahi sur le bonheur.
Et vivre.
Les expériences autotéliques, c'est-à-dire les expériences qui apportent par elles-mêmes leur propre plaisir.
Et ça, c'est un grand livre. Hein.
Ah, bon. Alors, bah, autant lire les grands, non ?
En la matière.
En la matière. Donc, mais les livres de philosophie, moi, si dès les premières lignes, généralement, je me donne jusqu'à la page 17. Il n'y a pas quelque chose en moi qui a déjà changé, qui a déjà été comme surprise, déconcertée, mise en colère. Je ne continue pas. Enfin, il n'y a pas un livre de... Mais je ne dis pas ça parce que c'est ma chapelle, hein, c'est ma boutique, la philosophie. Mais il n'y a pas un livre de philosophie que j'ai lu qui ne m'ait pas changé, même quand je n'étais pas d'accord. Parce que le fait même de prendre du temps et de lire un livre qui n'est pas facile d'accès, ça je le concède, et qui va me demander, non pas cet effort, mais ce plaisir d'aller vers quelque chose qui me résiste. Bah déjà, ça m'a fait changer.
Sandra Colombo, comédienne et humoriste.
Alors moi, je pense que ce qui nous fait changer en profondeur, c'est qu'on a déjà cette volonté de changer au fond, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, par exemple des schémas répétitifs ou des choses avec lesquelles on se heurte à la vie tout le temps. Et je pense que quand on décide de lire ce genre de livre, même si au départ, on n'est pas moi, je ne suis pas forcément fan de ces bouquins parce que je trouve que c'est trop facile. Mais peut-être c'est le premier pas pour essayer d'aller travailler sur soi plus en profondeur et d'aller mieux. Et c'est en ça que je les trouve très intéressants.
Vous vous êtes reconnue dans l'extrait de Marianne Powers qu'on a diffusé
Alors oui, moi j'étais sceptique parce qu'évidemment, c'est pas ce que j'ai appris à la fac. Moi, je me suis confrontée à des bouquins auxquels je ne comprenais rien. Moi, j'ai lu tous les séminaires de Lacan, je n'ai rien compris. J'étais là, waouh,
c'est normal.
Ah oui, c'était super. Et après, c'est vrai que ça paraît facile, mais ça, c'est trop facile. Les livres de développement personnel que moi j'ai lus, type les 4 accords Toltec ou des choses comme ça, voilà, parce que c'est trop simple. Et en même temps, ça part d'un bon sentiment et d'une observation simple de la vie. Être gentil avec les autres et pas dire du mal dans leur dos, bon bah c'est un peu la base de la vie en société.
Cédric Anjalbert, rédacteur en chef adjoint de Philomag.
Je dirais qu'il y a deux façons de changer la vie, en tout cas quand on lit un livre de philosophie. Le premier, c'est le parcours de vie qui peut être dévié. Moi, je pense à mes études de philosophie à la faculté, je m'ennuyais beaucoup, je trouvais que c'était un enseignement un peu poussiéreux. Et puis, j'ai lu un livre de Ruven Ogien, qui est un auteur qui écrit sur l'éthique minimale et maximale. Et là, je m'y suis retrouvé. Donc, c'est la première façon de changer sa vie, c'est de s'y retrouver. Il y a un moment, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui pense un peu comme moi et mieux. C'est-à-dire qu'il le formule de façon très claire et ça nous permet d'aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on pensait. Et la deuxième façon peut-être de changer sa vie, c'est quand on poursuit la lecture de la philosophie. Et là, je citerai une autre autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Annie Lebrun, qui est décédée en 2024, que j'ai beaucoup lu, et elle nous fait, quand on la lit encore aujourd'hui, changer de regard sur le monde. C'est peut-être l'autre façon qu'on a d'être transformé ou bouleversé par une lecture philosophique, par exemple, quand elle dit qu'on n'est pas dans une censure dans le monde parce que les gens nous interdisent des choses, mais parce qu'au contraire, on est gavé d'informations, d'images, de sollicitations, de désirs, et c'est ce qu'elle appelle la censure par l'excès. Ça, par exemple, ça a changé ma vie. Je me suis dit, effectivement, il y a là une vision du monde qui vraiment révolutionne ma façon d'exister.
Vous citiez Ruven Ogien, on peut lire avec profit l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, c'est publié au livre de poche.
Ou Mémile Nuit, qui est un très beau livre aussi sur sa maladie à toute fin, et où il raconte la façon de son expérience à l'hôpital, qui est vraiment à la fois bouleversant parce que c'est personnel, et très profond parce que c'est philosophiquement très étayé.
Christine Lapelle.
Et d'ailleurs, pour dire un mot de Ruven Ogien, il avait aussi cette façon pleine d'humour aussi d'aborder et de développer sa pensée, ce qui n'est pas donné à tout le monde, à tous les philosophes.
Effectivement, avec beaucoup d'exemples et beaucoup d'humour.
Et très abordable.
J'encourage à le lire parce que
c'est formidable.
Pour reprendre ce que vous disiez sur le fait que la philosophie, on ne comprend pas, enfin Lacan...
Pas toujours.
Pas toujours, mais... La logique de la philosophie, c'est pas comprendre ou ne pas comprendre. C'est-à-dire, ne pas comprendre fait partie de la compréhension. Donc, je pense qu'on est obsédé par les catégories de réussite et d'échec, en permanence. Même quand on nous dit qu'il faut apprendre de ses échecs ou rebondir, on est quand même obsédé par l'échec ou la réussite. Mais la philosophie n'obéit pas à cette logique. C'est-à-dire qu'il faut se plonger dedans. C'est comme écouter un morceau de musique. Ça va pas nous plaire peut-être immédiatement, mais il y a quelque chose qui se dit. La philosophie, c'est ça. On n'est pas obligé de chercher à comprendre immédiatement.
Allez, commençons notre petite sélection de livres de psycho, de développement personnel ou de philo. Sandra Colombo, je ne sais pas vous, mais en ce 1er janvier, je suis pris par une furieuse envie de ranger.
Oui.
Et vous nous conseillez La magie du rangement de la japonaise Marie Kondo, publié en poche chez Pocket. Il s'agit d'un best-seller sorti au Japon en 2011 et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Marie Kondo, la papesse de l'organisation et du tri par le vide. Pourquoi ce choix ?
Alors, plus de lire ce livre.
Parce que Marie Kondo, elle a... Alors, je lui fais un petit sort dans le spectacle, dans mon spectacle, je ne vous le cache pas, mais je trouve que Marie Kondo elle nous raconte quand même quelque chose de notre société de consommation, qui est qu'on est à la fois dans un désir fou d'avoir beaucoup d'objets et dans cette obligation de les garder une fois qu'on les a achetés. Et ça, c'est l'enfer, parce qu'avant, on avait des beaux objets qui duraient longtemps, des objets qu'on pouvait transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants qui étaient dans la famille depuis très longtemps. Maintenant, un t-shirt de chez Shein, on ne va pas le transmettre à grand monde. Mais en revanche, il aura beaucoup bousillé la planète, les gens qui l'ont fabriqué, etc. Donc je trouve que ce livre a quand même une vertu, c'est celui de nous faire réfléchir à ce trop dans lequel on est. On est dans une société du trop. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas assez et des gens qui ont beaucoup trop. Et je trouve que parfois, on est très dépassé par ces objets. On a une sorte de fascination à les avoir et en même temps ils nous énervent. Et puis c'est important, je pense, de faire de la place, parce que quand on est débordé visuellement par plein d'objets qui sont partout, on n'arrive plus bien à réfléchir.
Votre Marie Kondo, qui s'est récemment repentie dans le Washington Post, elle a déclaré qu'un intérieur parfaitement rangé au quotidien n'avait rien de réaliste, et Gonelle Boulay approuve à côté de moi. Je la cite, ma maison est en désordre, mais à ce stade de ma vie, c'est la bonne façon de gérer mon temps. C'est vrai qu'entre-temps, elle a eu trois enfants.
Elle a eu un troisième enfant dans une société extrêmement patriarcale, qui est le Japon, et de fait, elle s'est rendue compte que ce qui mettait le bazar dans la vie, c'était aussi la vie finalement, et que c'est pas mal.
Chrissy Lapelle-Edouelle.
Oui, puis enfin, il faut quand même le dire et le souligner. Il y a un petit côté. Alors, elle a évidemment gagné énormément d'argent, hein, énormément. En plus, il y a un côté complètement obsessionnel dans son histoire. Oui. Quand elle raconte qu'enfant, elle passait sa vie à ranger les affaires de toute sa famille à 7 ans et demi, il y a un truc, moi, je l'emmène directement consulter parce que je suis absolument.
Oui, mais elle a fait quelque chose de sa névrose, oui, voilà. Finalement.
D'ailleurs,
comme nous tous, non?
J'ai une petite anecdote. Un jour, mon fils ne voulait pas se lever. Sa chambre était ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Je lui ai demandé de ranger. Il s'est vaguement retourné, levé le nez de sa bande dessinée pour me dire « Je ne suis pas une japonaise névrosée.
» Lisez tout de même, en ce début d'année, la magie du rangement de Marie Kondo. Ça peut quand même vous donner quand même quelques idées. Cédric Anjalbert, en écho à ce livre et dans un tout autre style, vous avez choisi un livre sorti cette année de la philosophe Hélène Le Le vide qui est en nous, publié chez Albin Michel. C'est pas du Marie Kondo. Hein.
Alors c'est même l'inverse de Marie Kondo, et d'ailleurs elle y fait un sort aussi à Marie Kondo dans ce livre-là. Hélène Leuillet, qui est donc philosophe et psychanalyste, elle montre tout d'abord qu'il y a des vides qui nous aspirent dans l'existence. Alors le vide, c'est paradoxal, selon elle, parce que c'est le vide du précipice au bord duquel on peine à se mettre, on a un peu peur d'y tomber, et en même temps, c'est ce qui permet à la vie d'être aspirée vers un désir. Donc ça, c'est le paradoxe initial qu'elle montre.
Pourquoi ce choix ?
Parce qu'elle montre finalement que faire l'expérience du vide, accepter de faire l'expérience du vide, c'est aussi refuser la suroccupation de nos vies. Donc en début d'année, c'est peut-être une bonne résolution à prendre, finalement, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de combler nos agendas pour exister, on n'est pas obligé d'avoir des rendez-vous du soir au matin et du samedi au dimanche le week-end pour exister, qu'on peut aussi accepter ce vide. Alors ça n'est pas, c'est une discipline, on en revient peut-être aux exercices antiques dont on parlait en début d'émission, mais il y a une discipline à avoir pour accepter le vide. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une tentation qui pourrait être, comme Marie Kondo, de faire le vide chez soi en dégageant tout avec une forme d'obsessionnalité qui n'est pas l'expérience du vide, qui est encore une façon de remplir le vide finalement, parce qu'on le refuse, on essaie d'y échapper, on essaie d'échapper au vide de nos existences en se forçant à ranger absolument nos maisons. Donc voilà, elle montre qu'il faut aussi accepter parfois qu'il y ait des objets inutiles, des choses qui ne nous servent pas, qui nous encombre un peu, et la vie est faite aussi de tous ces encombrements.
Le vide qu'est-on-nous, de la philosophe Hélène Leuillet, s'est publié chez Albin Michel. Alors le rangement, la recherche du vide peuvent provoquer chez certains une forme de tranquillité de l'âme. Pas de méthode de rangement dans de la tranquillité de l'âme du stoïcien romain Sénèque, Laurence de Villers. C'est votre choix. Pourquoi avoir choisi ce célèbre livre de Sénèque disponible dans plein d'éditions de poche? Pourquoi il peut nous aider à bien aborder ce début d'année ?
Alors, avant de vous répondre, je dois vous dire que depuis que je vous connais, je suis en train d'écrire mon propre livre de développement personnel. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Avec mes techniques de rangement, pas rangement. Bon, voilà.
Oui, très bien.
Depuis que je vous connais, je suis en train de l'écrire. Alors, Sénèque. D'abord parce que c'est, je crois, le seul philosophe devenu millionnaire. Donc, je pense qu'il a peut-être quelque chose à me dire d'utile. Ensuite, parce que ce qui est frappant, mais je vais dire quelque chose qui est une évidence, mais quand même, ça donnera sans doute envie de le lire, enfin peut-être, c'est que on ne cesse de le lire en se disant « mais c'est pas possible, il a pris le métro avec moi aujourd'hui ». C'est à chaque ligne, il y a cette surprise. Par exemple, ce qu'il dit de notre rapport au temps, le fait qu'on dit toujours « manquer de temps », mais qu'on le dilapide à volonté. On fait plein de choses qui nous dispersent et qui font que finalement, c'est intéressant, on croit toujours que ces philosophies antiques nous disent, nous apprennent à mourir. Mais pas du tout, Sénèque, il vous dit la mort, c'est pas ce qui vous attend. C'est déjà derrière vous, c'est tout le temps que vous avez gâché. Donc Sénèque, je vais l'ouvrir plusieurs fois par semaine, au hasard, j'ouvre la page, je tombe sur la page qui est devant moi, et je lis parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est à côté de moi et qui me donne le bon conseil.
De la tranquillité de l'âme de Sénèque. Alors, Flavia Mazelin-Salvi, je rappelle que vous êtes autrice et journaliste, ne pas être aimé peut troubler la tranquillité de l'âme. Pourtant, deux auteurs, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, ont publié « Avoir le courage de ne pas être aimé », disponible chez Guy Trédaniel. « Avoir le courage de ne pas être aimé », c'est votre choix pour ce début d'année, Flavia Mazelin-Salvi.
Oui, parce que ce livre est un vrai bon livre de développement personnel. Alors d'abord parce que son auteur, c'est les deux auteurs, Kishimi, qui est un philosophe spécialisé en philosophie classique, c'est un spécialiste de la pensée platonicienne, et spécialiste de la psychologie adlérienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il considère la psychologie comme un champ, une partie du vaste champ de la philosophie, puisque l'objectif pour lui des deux disciplines, c'est mener, vivre une vie bonne, au sens large du terme. Et il dialogue pendant près de 300 pages, un dialogue socratique entre le philosophe, c'est lui, et un jeune homme qui est Fumitake Koga, qui est un écrivain de non-fiction au Japon, qui est multiprimé, qui, de ce que j'ai vu, n'est pas traduit en France. Alors, ce dialogue, c'est un jeune homme mal dans sa peau, qui est en colère, qui est avide de reconnaissance, d'où le titre, « Avoir le courage de ne pas être aimé », et qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et au fil donc des pages du jeu de questions-réponses sans complaisance, ce jeune homme va découvrir le chemin vers l'autonomie psycho-affective et comprendre et intégrer, semble-t-il, les trois grands principes, entre autres, de la psychologie adlérienne. Le premier, qui est ce qui compte, n'est pas tant ce qu'on a vécu que ce que l'on décide de faire de ce que l'on a vécu. Le deuxième, qui est tout le monde, et c'est un des grands principes adlériens, c'est qui a mis au jour le sentiment d'infériorité, qui pour lui est constitutif de la nature humaine. On a tous au départ un sentiment d'infériorité qu'on va façonner dans un sens bon pour soi et pour autrui, qu'on va subir et donc être dans une sorte d'effondrement et de passivité, ou alors qu'on va surcompenser, qu'on va compenser par le sentiment de supériorité. Et donc ce sentiment bien utilisé, c'est pas de jugement sur soi et les autres, et surtout pas d'attente de reconnaissance. Mmh. C'est deux dispositions qui permettent d'être libre. Et enfin, le troisième principe adlérien, Kishimi explique que ce qui rend heureux, c'est le sentiment communautaire. C'est le sentiment d'appartenance à une communauté humaine via des relations interpersonnelles basées sur la confiance, qui évite le calcul, le marchandage, les rapports de force. Et il dit, c'est comme ça qu'on contribue avec ses moyens, là où l'on se trouve, depuis sa singularité et ses possibilités, à façonner au jour le jour une vie bonne et aussi bonne pour les autres, qui n'est pas une vie égocentrée.
Moi ça me donne envie.
C'est un livre formidable.
Flavia Mazelin-Salvi, ça me donne envie. Laurence de Villers.
Ah non.
Pourquoi? Ne cassez pas le cou de Flavia Mazelin-Salvi.
Non, c'est pas Flavia, c'est ma réaction. C'est moi le problème. Mais déjà, les livres qui commencent, c'est en trois points. Déjà, moi, ça me fait peur.
Ah
parce
non,
que
c'est
tout le monde...
absolument pas en trois points. Hein. Ah. Oui. Moi, c'est moi qui relève les principes adlériens, qui les met au jour. Bon, mais évidemment, il y a tout l'éventail de la psychologie.
Et alors, les deux autres choses qui me gênent un peu, et pas seulement sur ce livre, c'est le rapport que j'ai au développement personnel, c'est que ça fait reposer sur moi le poids des erreurs. toujours. C'est-à-dire que il faut que je me réforme, je me change, que je décide, que je veuille, que je fasse bien. En fait, c'est ultra culpabilisant. Je pense que ça a remplacé la culpabilité judéo-chrétienne par la culpabilité développement personnel.
Un mot pour la défense, Flavia Mazzola-Salvi.
Il n'y a pas vraiment de culpabilisation dans la mesure où si on est mal, si on éprouve de la souffrance, bon, à un point, il faut consulter, faire une psychothérapie, évidemment. Mais sinon, on peut tout à fait trouver de l'intérêt, de la dignité aussi, à se questionner sur ce qui nous conditionne, sur ce qui nous a blessés, sur ce qui nous freine. Et il me semble que c'est un peu ce que nous voulons tous, être moins ligotés, moins dans la souffrance et plus libres. Donc il n'y a pas de culpabilisation, alors, c'est au contraire une mise en action où moi je vois beaucoup de, une forme de, vraiment de reconquête de liberté et de puissance personnelle.
Et ça s'appelle donc avoir le courage de ne pas être aimé, et c'est signé Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. J'essaie de prendre un petit accent japonais. Bravo. Visiblement, vous n'êtes pas convaincu.
C'est vachement bien. Ah, oui.
Christina Pelédouel, si on n'a pas le courage de ne pas être aimé, on peut lire avec profit le livre du réconfort du Britannique Matt Haig, et c'est publié chez Philippe Ray.
Voilà, et traduit par Samuel Sfez. Matt Haig avait déjà publié en français, ça a été traduit, un livre qui s'appelait Rester en vie et qui était formidable. Alors lui part de sa propre expérience, il a été dépressif abominablement, il a encore des accès de dépression, et son idée, c'est non pas de donner des trucs, des astuces, etc., mais simplement de, par tout petit chapitre, de proposer des choses qui nous permettent de débloquer, par des propos contradictoires et parfois provocateurs, de débloquer des positions. Alors ça peut être très bref et extrêmement juste là, maintenant. Mais par exemple, alors il y a un truc qu'il fait et que j'aime beaucoup, il fait des listes. Il est vraiment, c'est vraiment marrant. Par exemple, il y a une liste qui s'appelle « Non ». Et franchement, je vous assure que moi, personnellement, ça me donne un petit coup de fouet. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas écrire cet article gratuitement. Non, je ne viens pas mardi. Non, je ne veux pas un autre verre, etc., etc. Et donc, en fait, il nous remet dans des situations très quotidiennes, mais avec un angle de vue qui permet de dépasser le truc et de reprendre en main certaines réactions. Il y avait un moment à propos de la dépression, il disait, et ça, c'était dans le précédent livre, si faites ce que vous pouvez pour vous sentir mieux, et si lécher du papier peint vous fait du bien, allez-y, lécher du papier peint. Donc ça, c'est vraiment,
c'est l'humour qui est le réconfort,
voilà, l'humour anglais, et dont il est vraiment un maître.
Et je partage votre choix, le livre du réconfort de Matt Haig, c'est vraiment très bon, c'est chez Philippe Ray. Par exemple, il y a une page qui s'appelle « Pluie » et il écrit ceci « Rien ne vous oblige à être positif, rien ne vous oblige à vous sentir coupable d'avoir peur, d'être triste ou en colère. On n'arrête pas la pluie en lui disant d'arrêter. Parfois, il faut la laisser tomber, la laisser vous tremper jusqu'aux os. Il ne pleuvra pas pour toujours, et sachez que si mouillé que vous soyez, vous n'êtes pas la pluie, vous n'êtes pas les sensations négatives dans votre tête. Vous êtes la personne qui vit la tempête. La tempête peut vous bousculer, mais vous vous relèverez. Tenez bon. » Le livre du réconfort de Matt Haig. Elle va nous réconforter avec sa chronique, Gwenaëlle Boulet, Ma vie de parent.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants,
après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Gwenaëlle Boulet, en ce 1er janvier, vous êtes en très grande forme pour nous parler parentalité et développement personnel.
Mais oui, Ali, quelle bonne idée cette émission, un lendemain de réveillon. Hein. Pour moi, c'est vraiment le timing idéal pour disserter sur n'importe quel sujet. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis jamais plus intelligente et lucide que vers 3h du matin, avec une bonne dose de Mojito dans le nez. En général, à ce moment-là, tout s'éclaire dans ma tête. Je fais preuve d'une acuité redoutable concernant mon existence, mais aussi celle de l'humanité tout entière. Et que de grands choix qui vont changer ma vie s'imposent enfin à moi. Oui, danser un peu pompette sur Britney Spears à 3h du matin fait en général de moi la reine du développement personnel, la queen de la valorisation de mes talents, la déesse de la réalisation de moi-même.
Et alors, qu'avez-vous tiré de cette grande réflexion sur piste de danse cette nuit ?
Et alors, cette nuit, lors de ma pause pipi entre Harry Styles et Dua Lipa, j'ai hésité entre deux chemins de pensée. Alors, du coup, j'avoue que la pause pipi a duré un peu longtemps, mais d'un côté sombre de la force, je me suis dit que la vie était quand même mal foutue. Parce que vu que tout ce que tu prends dans la figure en un temps record en termes d'émotion quand tu deviens parent, c'est là que tu aurais besoin de temps pour te poser, prendre du recul, pour voir lire des trucs qui te font réfléchir à tes aspirations profondes, trouver ton véritable moi, tout ça, tout ça. Sauf qu'à ce stade de ta vie, ton emploi du temps est blindé de chez blindé, chargé à bloc entre le boulot, les tâches domestiques à gogo, le dodo dès que tu peux. Conclusion, pas une minute pour lire les 4 accords Toltec ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. La question devient alors, peut-on développer son potentiel humain le nez dans une couche de caca ou dans un cours inutile de technologie de 5e, that is the question.
Et c'est là qu'on explore votre deuxième chemin de pensée.
Mais oui, car à bien y réfléchir, toujours sur les toilettes un peu pompettes, on pourrait se dire que dans toute bonne matière à explorer, il y a la théorie et la pratique. Et qu'au lieu de voir ces années pleines comme des années en manque permanent de temps, voyons-les comme d'incroyables années de travaux pratiques, de connaissance de soi. Avec ses très hauts et parfois ses très bas, la parentalité est une folle occasion d'explorer tout un panel d'émotions, de sensations, de joie, de peur, d'inquiétude, de frustration. Être parent nous impose presque chaque jour de faire des choix, des compromis, de hisser certaines valeurs en haut de la pyramide ou au contraire d'en lâcher d'autres dans le caniveau. De façon plus instinctive que réfléchie, vous voilà donc embarqué pleinement dans le pouvoir du moment présent, l'éloge de la lenteur ou la magie du rangement, selon les cas ou les moments. Autant de best-of de développement personnel que vous êtes obligé de mettre en pratique. Alors, avec plus ou moins de réussite, certes, pas mal de ratés sans doute, mais j'imagine qu'il existe un bouquin intitulé « Éloge spirituel de l'imperfection » ou « L'art subtil de s'en foutre » qui font que, quoi qu'il arrive, vous avez donc forcément progressé. Alors voilà, pour cette année, partons sur des travaux pratiques pour tous, hein, en n'oubliant pas de soigner la base de sa pyramide, à savoir les besoins physiologiques que sont respirer, manger, dormir, boire... Et j'ajouterais bien faire la fête pour toujours plus de lucidité existentielle. Sur ce, belle année à tous.
Et vous faites évidemment référence à la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Et en tout cas, on est ravis d'apprendre que la rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'Api danse un peu pompette sur du Britney Spears à 3h du matin. Voilà, c'est vous qui l'avez révélé.
Pompette au champomis.
Oh, ben, évidemment, bien sûr.
Grand bien vous fasse.
En philo, c'est plus important de réfléchir que d'avoir la réponse. Et c'est pour ça que la philo, c'est quand même une discipline très française.
Sur France Inter.
Et vous avez sans doute reconnu Alex Vizorek. Et en ce 1er janvier 2025, une petite sélection de livres de développement personnel, de psychologie et de philosophie pour bien commencer l'année. Sandra Colombo, pour donner un sens à sa vie, on peut essayer de devenir plus créatif et vous conseiller la lecture de Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre, d'Elisabeth Gilbert, disponible au livre de poche.
Oui, moi je dis Gilbert parce que je suis française. Elisabeth et Gilbert. Donc, est la personne qui a écrit « Mange, prie, aime », qui a été donc un best-seller mondial, qui a été adapté au cinéma avec Julia Roberts dans le rôle-titre, qui est donc l'autrice du livre. Donc, quand on est adapté avec Julia Roberts, on se dit « Est-ce qu'on a réussi sa vie ?» Oui. Et Elisabeth Gilbert, elle se retrouve assez jeune avec cette réussite immense, qu'elle sait qu'elle ne dépassera jamais. Tout le monde lui dit « Bah ma pauvre chérie, bah voilà, t'as 30 ans et puis t'as fini ta vie en fait, tu feras jamais plus rien puisque t'as déjà tout fait. » Et elle se dit « Mais comment continuer à écrire, comment continuer à être créatif puisque la créativité est le sens même de la vie ?» Et c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre que je conseille beaucoup à mes élèves, car oui, je donne également des cours pour apprendre à être drôle. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde parce que vraiment c'est un livre très facile à lire, avec des aphorismes, avec des choses très simples, et elle dit des trucs très jolis, comme par exemple « Faites ce qui illumine votre vie, suivez ce qui vous fascine ou vous obsède, ayez confiance, créez ce qui provoque des révolutions dans votre cœur, le reste se fera tout seul. » Waouh ! Moi, je trouve ça magique. Je trouve que c'est très joli et que ça débloque aussi beaucoup l'esprit de se lancer, parce que moi, je remarque avec mes élèves que quand on écrit du stand-up, ce qui est très difficile, on est très angoissé du résultat. Et elle dit, peu importe le résultat, tentez. Et je trouve ça joli.
Laurence de Villers aimerait casser votre cou, mais
oui,
on n'a pas le temps, Laurence, désolé. Et donc, ça s'appelle « Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre » d'Elisabeth Gilbert, au livre de poche. Flavia Mazzolin-Salvi, une valeur sûre pour commencer l'année, c'est « La joie » de François Tcheng, un livre sorti en 2011 et publié aux éditions du Cerf.
Oui, et qui ne cesse d'être réimprimé. Et c'est un texte très court. En fait, ce sont 7 petits textes sur la joie. Et ce qu'il y a de particulier dans ce livre, c'est qu'il fait ressentir le propos qu'il déroule. Bah, il met en joie ce livre. Et cette joie qu'évoque François Tcheng, c'est évidemment pas la jubilation, l'euphorie, le contentement, la satisfaction. C'est une joie sans cause, une joie profonde. Alors, la joie des mystiques, c'est une joie transcendante, mais pas seulement. C'est la joie, il dit, qui jaillit dans ces moments où on a la sensation de renaître à la vie, qu'on est délivré des anciennes chaînes. Ça peut être quand on sort chez le dentiste, pourquoi pas, mais aussi quand on a senti qu'on a dépassé quelque chose qui faisait obstacle. Et il dit, c'est la joie, en fait, c'est un hymne à la vie. Et juste, j'aimerais vous citer cette conclusion en ce début d'année. En ce changement du temps cyclique, formulons le souhait que chaque jour qui se donne soit l'occasion pour chacun de renaître à la vraie vie. Parce que pour lui, la joie, c'est la mesure de la part la plus vibrante, la plus vivante en nous, ce qu'il appelle la vraie vie.
La joie de François Tcheng, c'est publié aux éditions du Cerf. Alors Cédric Angelbert, pour vous, en ce début d'année, il faut lire Gilles Deleuze. On fête son centenaire en ce mois de janvier. Gilles Deleuze est évidemment l'un des plus célèbres philosophes français. On va cultiver la joie d'exister avec Deleuze, mais de quelle façon et en lisant quel ouvrage ?
Alors effectivement, en fait, le centenaire de la naissance de Gilles Deleuze, qui est né en 1925, et Gilles Deleuze, c'est un peu la pensée 70s, ça peut paraître un peu ringard, en revanche, on le cite beaucoup, peu l'ont lu, et on retrouve chez Gilles Deleuze surtout la joie de créer, alors à la fois de créer des concepts, de créer à partir de tout ce matériau qu'il y a autour de nous, les œuvres d'art, la littérature, la musique, le cinéma, il fait feu de tout bois, ou flèche de tout bois, et c'est aussi une joie qui est le développement de ce qu'il appelle la puissance d'agir. Alors il emprunte ça à un autre auteur, le philosophe Spinoza, et chez Spinoza, la puissance d'agir, c'est aussi une puissance d'être affecté par le monde. C'est pas la puissance au sens d'un pouvoir sur le monde, mais c'est le pouvoir d'être affecté et de ressentir le monde à travers soi.
Et donc il y a un hors-série de Philosophie Magazine consacré à Deleuze, encore en vente en kiosque.
Absolument, tout un hors-série sur Deleuze qui est actuellement en vente Philosophie Magazine.
Gwenaël Boulet, un petit conseil peut-être ?
Alors moi, je suis dans la force de l'âge de Beauvoir. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, mais c'est un truc personnel, avec les impératifs. Moi, dès qu'on me dit « mange, bois », je me bloque. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les mémoires, parce que je trouve que ça permet justement de rentrer avec quelqu'un, avec une individualité, dans une trajectoire, et effectivement d'essayer de voir voilà, qu'est-ce qui nourrit cette personne, qu'est-ce qui l'interroge, à quel moment il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, qu'il a fait tel ou tel choix. Et Beauvoir, pour moi, c'est vraiment le grand questionnement autour, et qui m'a beaucoup parlé tout à l'heure, on disait il faut qu'on s'y retrouve, mais quelqu'un qui le dit mieux, pour moi c'est Beauvoir, c'est ça, c'est quelqu'un dans lequel je me retrouve complètement, mais qui le dit tellement mieux, sur les questions de la liberté, évidemment, sur la question du bonheur, elle dit à un moment, mon entêtement schizophrénique au bonheur me rendit aveugle à la réalité politique, et je trouve que ça parle très très bien de cette recherche effrénée du bonheur pour soi-même, qui à un moment donné nous coupe aussi d'un certain nombre de réalités, nous coupe de certains questionnements, du rapport aux autres, et pour moi en tout cas Beauvoir a été, j'ai envie de dire, un grand livre, je ne sais pas si c'est du développement personnel, mais en tout cas de réflexion et d'évolution.
La force de l'âge,
c'est le deuxième de son autobiographie.
La force de l'âge en poche chez Folio. En quelques mots, pourquoi lire les Confessions de Saint-Augustin, Laurence de Villers ?
Parce que c'est Manche prix M. Ou alors je suis ça, Julia Roberts, je ne sais pas, mais c'est Manche prix M. C'est exactement ça, hein, ça commence par une poire, et puis ça finit par... S'aimer enfin soi-même parce qu'on aime Dieu. Il faut passer par un autre pour pouvoir s'aimer soi-même. C'est à contre-courant, je l'assume, mais je trouve que les Confessions d'Augustin, c'est quand même le livre premier qui va donner toutes les autobiographies qui vont suivre. Et puis cette manière sans concession aucune
de se dire et de s'écrire, je pense que ça fait du bien parce qu'on se ment beaucoup à soi-même.
Les confessions de Saint Augustin que vous trouverez dans plein d'éditions de poche. Christine Appelé-Douel, pour terminer, vous avez choisi Une vie de hibou, tout ce que j'ai appris en sauvant Alfie, de Carl Sefina. C'est traduit de l'anglais par Odile Demange et Pierre-François Régnier. C'est chez Bûcher et Chastel. Donnez-moi envie de lire ces 450 pages consacrées à un hibou.
Je savais que ça vous plairait. Non, c'est évidemment, ça peut paraître ne pas être un livre de développement personnel. Mais voilà, Safina, c'est un naturaliste américain qui un jour tombe sur un bébé hibou et le ramasse et décide de l'élever. Mais, alors on peut se dire, ah oui, encore un truc américain, gna gna gna, tout ça, les bonnes pensées, etc. Mais c'est pas ça du tout. En fait, il entame une réflexion à travers cet élevage de ce petit hibou, qui est une petite dame d'ailleurs, qui s'appelle Alfie. Il entame toute une réflexion, d'abord sur notre relation avec les animaux et sur notre place face aux animaux ou avec les animaux. Et puis aussi une réflexion sur notre posture à nous et sur notre manière d'envisager la vie. Et évidemment, il fait référence à quantité d'auteurs. Ce n'est pas juste un petit récit amusant et qui pourrait être illustré par de jolis dessins. Et moi, j'ai adoré. Il a une manière vraiment très charmante de raconter la vie d'Alfie, mais aussi une façon très américaine, disons-le, c'est-à-dire très directe, franc du collier, on va dire, de nous entraîner sur les chemins justement de la réflexion et de la lecture. Alors, il y a quantité de références, donc on peut s'y retrouver. Et puis, évidemment, parce qu'on n'en a pas dit un mot, mais il aborde la question de la philosophie bouddhiste, qui est quand même aussi au centre de cette réflexion qu'on fait en ce moment sur l'existence, sur la vie. Et il ouvre, moi je trouve, hein, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, il ouvre des portes. Et moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Vous n'êtes pas obligé de lire les 450 pages, Ali.
Une vie de hibou, tout ce que j'ai appris en sauvant Alfie, de Carl Sefina. C'est publié chez Bûcher Chastel. Merci à toutes et à tous. Merci Cédric Angelbert, merci Laurence de Villers, Christine Appelé-Douel, Flavia Mazelin Salvi et Sandra Colombo. Et évidemment, merci Gonelle Boulet d'être venue en ce 1er janvier. Demain, on voit la vie en rose, en compagnie du grand historien Michel Pastoureau qui publie Rose, histoire d'une couleur.